Europa Voice numéro 55. Et comme chaque semaine, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors, numéro 55, on va parler d'Europe, comme d'habitude. Hein, c'est un peu le sujet quand même d'Europa Voice. Mais cette fois-ci, il y a eu un sommet européen. Et ça faisait un petit moment qu'on n'a pas eu vraiment un sommet européen. Et cette fois-ci, c'est une première parce que visioconférence Covid oblige.
Oui, c'est un sommet européen un peu particulier hein, parce que pour deux raisons. Alors d'abord, parce que c'est pas tous les sommets européens qu'on consacre un agenda à une relance économique de l'Union européenne. Hein. Pour ça, il faut qu'il y ait une crise. Donc heureusement, ce n'est pas tous les jours qu'il y a une crise financière monétaire en Europe. Et puis la deuxième raison, Christophe, comme vous l'avez mentionné, c'est un sommet européen qui a été fait par visioconférence, qui est une des premières pour les dirigeants de l'Union européenne.
Un sommet européen qui, somme toute, reste un peu le même son de cloche, j'allais dire, les pays du Nord, les pays du Sud, les pays du milieu. Là, pour le coup, les positions n'ont pas forcément super changé.
Non, Christophe. Alors, c'est un sommet européen qui, finalement, reste assez classique, j'allais dire, pour deux raisons. D'abord, la première raison, c'est parce que, encore une fois, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, donc les 27 dirigeants, ont chargé la Commission européenne de produire des résultats. Donc, c'est toujours ce jeu en fait institutionnel entre les chefs d'État qui demandent à la Commission de prendre le lead sur certaines initiatives. Là, en l'occurrence, c'est un plan de sortie de crise par rapport aux efforts de solidarité et à la sortie de crise de la pandémie et l'exit stratégie du Covid-19. Et puis, la deuxième raison, Christophe, c'est effectivement, comme vous l'avez mentionné, on reste dans ce schéma assez classique des pays du Sud, Espagne, Italie en tête cette fois, qui demandent aux pays du Nord un effort, ou en tout cas de les aider, et des pays du Nord, cette fois Allemagne et Pays-Bas en tête, qui mettent le frein et qui n'ont pas exactement la même vision de cette sortie de crise et de cet effort financier que l'ont les pays du Sud.
Alors l'Italie, on va d'ailleurs en reparler un tout petit peu plus tard hein, dans ce podcast. Restez à l'écoute si le cas italien vous intéresse. Je pense que c'est, à mon avis, super intéressant par rapport à cette politique européenne. Mais si on se consacre aujourd'hui, là maintenant, sur ce sommet européen, la position de la France dans tout ça, parce que c'est un peu au milieu quand même la France, entre les pays du Sud et les pays du Nord. Géographiquement, est-ce que la France a aussi une position un peu intermédiaire entre ces politiques ?
Alors Christophe, on est effectivement toujours dans ce « en même temps cher à Emmanuel Macron, président de la République ». Non, le président Macron, lui, a véritablement fait formuler le vœu d'une autonomie stratégique européenne renforcée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait qu'il veut absolument que l'Union européenne soit capable de ne dépendre d'aucune aide extérieure dans cette sortie de crise. Alors, pourquoi il a dit ça ? Parce qu'il est aussi aligné sur la position de la présidente française de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, qui avait alerté les dirigeants européens en leur disant qu'il fallait absolument éviter le risque d'agir trop peu et surtout d'agir trop tard par rapport aux conséquences économiques de la pandémie. Alors, il y a certaines conséquences dont on est déjà malheureusement au courant. D'abord, c'est l'explosion du chômage, évidemment, mais c'est aussi d'un point de vue tout simplement des indicateurs économiques. Pour l'instant, une chute record du produit intérieur brut du PIB de l'Union européenne de près de 7,1%. Et ça veut dire quoi si on prend juste les pays de la zone euro, ce qu'on appelle l'eurozone, l'eurogroupe? Eh bien, ça veut dire que les 19 pays de cette zone à l'intérieur des 27 sont menacés, leur monnaie est menacée et donc, j'allais dire, le groupe en lui-même est menacé si l'Europe… et là, je vais prendre des termes qui ont déjà été utilisés plusieurs fois, n'arrive pas à inventer, ou en tout cas à réinventer, une solidarité financière.
Est-ce que c'est vraiment vrai, ça, dans un monde où le monde entier, le PIB du monde entier est en train de chuter ? Il n'y a pas vraiment un pays qui en profite encore aujourd'hui, avec un PIB qui monte en flèche. Donc, dans cette chute globale, est-ce que l'Europe, quand même, globalement, s'en sortirait pas mieux que les autres ? Ou quelle est la position de l'Europe, en fait ?
Ça dépend en fait, Christophe, de la manière dont les dettes, dont les dépendances financières sont organisées entre les États. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous êtes un pays, que vous êtes finalement seul face au reste du monde ou face aux institutions internationales, vous avez votre destinée entre les mains. Là, la question, quand on parle de solidarité financière, de solidarité entre les États, ça veut dire quid de la question, par exemple, de la mutualisation des dettes nationales. Madrid et Rome, pour reprendre les exemples espagnols et italiens, eux, en fait, aimerait qu'il y ait une mutualisation de ces dettes nationales. Et c'est ce que là, les dirigeants européens ont débattu en appelant ça des corona bounds. Donc la question, elle est pas, pour l'Europe, elle est celle-là, c'est-à-dire quid de votre propension à mutualiser les dettes, à faire preuve de solidarité dans ces moments difficiles. L'intérêt aussi, Christophe, de la mutualisation de ces dettes pour les pays du sud de l'Europe notamment, c'est de bénéficier de taux d'intérêt qui sont peu élevés dans les pays du nord afin de financer l'après-crise. Donc ça veut dire qu'en fait, non seulement vous mutualisez les risques à présent et vous faites preuve d'une solidarité financière au moment où la crise arrive, donc maintenant, là, où on a besoin justement de réinjecter de l'argent dans l'économie et de maintenir un niveau d'activité, mais pour la sortie de crise, ça vous permet aussi de bénéficier de taux d'intérêt beaucoup plus bas que vous ne l'avez dans votre pays en proie à une forte crise endettée, Italie ou Espagne, pour justement refinancer après vos activités. C'est des questions qui ont déjà été débattues depuis la création de l'euro et sa mise en place en 99, Christophe. Mais là, la véritable question, c'est que on est peut-être même dans un dilemme encore plus important qu'au moment du mécanisme européen de stabilité et du sauvetage de la Grèce il y a quelques années. La question, c'est en fait, est-ce que cette crise économique, s'il n'y a pas cette mutualisation des dettes, s'il n'y a pas cette solidarité financière, est-ce que cette crise économique va aussi finir par devenir politique? Et donc, si on veut reparler même dans cet épisode d'Europa Voice de Brexit, eh ben qu'on va assister à cause de ça à la sortie d'autres puissances comme l'Italie. Le problème de l'Italie, Christophe, il faut le rappeler, c'est peut-être un pays en crise, mais c'est encore la troisième puissance monétaire dans cette union, dans cette eurozone. Donc forcément, ça va avoir des impacts si l'Italie n'est plus capable de rester dans ce groupe de la monnaie unique.
Okay, on va en parler d'ailleurs dans quelques instants de l'Italie. Un point, je voulais qu'on aborde d'ailleurs avant de passer justement à l'Italie, le chômage. Ça a été la bête noire de pays comme la France. Hein. Il y a eu, j'allais presque dire, la bête noire de pas mal de pays en Europe. Aujourd'hui, on atteint des taux de chômage hallucinants. On le sait, c'est une crise. Mais dans ce chômage, il y a beaucoup de chômage temporaire, du chômage qui est par rapport à la situation actuelle. Est-ce que la peur, c'est d'avoir ce chômage partiel temporaire qui se transformerait dans un chômage structurel, alors même que des pays comme la France, je prends simplement l'exemple de la France, arrivaient à inverser cette courbe de chômage et que tout ça, ça pourrait casser les pattes, entre guillemets, à tout le travail qui avait été fait avant. Quel est le risque économique pour l'Union européenne?
Alors Christophe, c'est effectivement une question de courbe, hein, parce qu'on parle beaucoup de flatten the curve pour sur des critères épidémiologiques, sanitaires. Mais la question de flatten the curve, ou en tout cas de maîtriser sa courbe, elle s'applique aussi au chômage. Alors, la vraie question, Christophe, et je pense qu'il n'est pas encore né, celui qui sera capable de nous dire, même l'économiste, si ce chômage, pour l'instant partiel, va se transformer en chômage structurel de long terme, une fois que la conjoncture sera revenue à une situation plus normale. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, Christophe, si vous voulez, l'activité économique, elle est aussi maintenue, j'allais dire presque sous respirateur artificiel. C'est-à-dire qu'on injecte dans l'économie des dispositifs, on met en place des dispositifs qui font qu'on essaye de juguler le chômage. Vous avez pris l'exemple français, hein, on peut prendre l'exemple aussi australien si on sort de nos frontières et on sait qu'on a beaucoup d'auditeurs d'Australie dans Europa Voice. C'est que pour l'instant, c'est fictif. C'est-à-dire que oui, il y a un chômage partiel parce qu'une activité, elle est encore capable d'être maintenue grâce à certaines aides gouvernementales, grâce à certains dispositifs, mais qui n'ont pas tendance à durer. Donc la véritable question, Christophe, c'est effectivement combien de business, combien d'entreprises, combien de petites entreprises, de restaurateurs, etc., devront mettre définitivement la clé sous la porte parce qu'ils n'auront pas réussi à passer cette période de chômage partiel post-Covid-19. Donc, c'est encore très difficile de le dire, mais c'est pour ça aussi que les États européens doivent s'organiser bien en amont et pour reprendre les mots, encore une fois, de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, ne pas agir trop peu ou ne pas agir trop tard, parce que de ce qui va se passer maintenant va dépendre aussi dans 6 mois de la potentielle reprise d'activité de tous ceux qui auraient été maintenus artificiellement en activité pendant cette période de lockdown et de confinement où l'activité ne peut pas se déployer de manière intégrale. Mais la question, c'est voilà, quand elle pourra de nouveau se déployer de manière intégrale, combien vont survivre et à combien sera le chômage, j'allais dire, quand l'activité ne sera plus maintenue sous respirateur artificiel.
Alors, on l'a vu aussi, le président Macron est un peu en visite à travers tout le pays, à travers l'Hexagone en France. Il a particulièrement été voir les agriculteurs en Bretagne. Et simplement, une référence qui est intéressante dans ce qu'il a pu dire, il a dit qu'il était déjà avant tout ça le défenseur de l'indépendance alimentaire européenne. Et ça joue sûrement un grand point dans la politique européenne dans les mois à venir. On sait à quel point l'Europe fait attention à ses agriculteurs. À quel point cette indépendance alimentaire est importante pour un continent comme l'Europe, économiquement?
Mais c'est vital, Christophe. Et en fait, tout ça, c'est la même question, c'est-à-dire à partir de quand l'entité politique européenne est capable d'être indépendante financièrement, indépendante technologiquement, indépendante alimentairement, indépendante en termes de défense, de sécurité de ses frontières. Donc, je crois que la sortie d'Emmanuel Macron, elle est très juste pour cette raison-là, et elle est aussi très juste, et ça il faut le rappeler, le mettre en exergue pour nos auditeurs, c'est que la politique de la PAC, la politique agricole commune, elle est aussi très bénéficiaire pour la France. Alors, du jour au lendemain, la France ne va pas devenir le grenier de l'Europe, si je prends une expression consacrée, mais le président français a tout intérêt à mettre en place les jalons pour une indépendance alimentaire de l'Europe. Et puis, deuxième élément, c'est qu'on parle de rouvrir prochainement les frontières. D'abord Schengen, il y a encore une grande incertitude sur la réouverture des frontières en dehors de l'espace Schengen. Donc, cette référence à une indépendance alimentaire, elle est tout à fait justifiée parce que ça peut durer 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, et ça peut surtout revenir. Donc, je crois que de plus en plus, et ça rejoint cette question de la solidarité financière, l'Europe va devoir, si elle ne veut pas que cette crise sanitaire devienne une crise d'abord économique, puis une crise politique, mettre en place les garants de son indépendance à fonctionner comme une entité à part entière, l'Union européenne.
Et la question de l'Italie, justement, c'est l'Italie dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent dans Europa Voice. C'est vrai que vous le rappeliez un petit peu plus tôt, c'est la troisième puissance financière pour l'Europe. Mais il y a des velléités qui commencent à s'élever, des voix qui commencent à s'élever contre l'Europe, justement, en Italie. Parce que peut-être l'Italie se sent un petit peu délaissée.
Alors l'Italie, Christophe, elle ne déroge pas à la règle des pays en crise qui se retournent pour contester contre l'Europe. Juste pour donner deux autres exemples que nos auditeurs ont forcément en tête, les Brexiteurs, forcément, hein, le mouvement du Brexit, et puis même en France, au moment des manifestations des Gilets jaunes, avec ces drapeaux européens déchirés, violentés. Donc effectivement, le ressentiment anti-Europe, il est en ce moment assez important en Italie. Alors c'est assez étonnant parce que ce ressentiment anti-Europe est maintenant assez ancré dans la société italienne, mais il s'oppose aussi à une sorte de popularité du Premier ministre italien Giuseppe Conte, qui, dans son opinion, a plus de 60% d'opinion favorable, justement. Et donc, c'est assez étrange parce que, finalement, on a un leader qui n'est pas spécialement eurosceptique. Hein, Giuseppe Conte, pour le rappeler, hein, il est indépendant. Alors, il était des fois vu comme étant proche des positions du mouvement 5 étoiles, mais il est indépendant. Il est assez loin aussi quand même des positions de la Ligue de Matteo Salvini. Et il a des opinions favorables auprès de la population européenne. Donc, c'est-à-dire que la population italienne a en même temps une opinion plutôt favorable d'un leader modéré et en même temps quand même des velléités anti-européennes qui se manifestent de plus en plus.
Est-ce que ce sentiment se ressent au fond de la population de plus en plus depuis cette crise du Covid-19? Je m'explique, parce que les Italiens ont eu beaucoup la tête sous l'eau. Il y a eu une vague de Covid, de coronavirus qui a submergé le pays. Est-ce que ces velléités-là anti-européennes sont ressenties par la classe politique, ou est-ce qu'on le sait aujourd'hui, les gens ont le temps d'avoir ce sentiment anti-européen dans les rues de Naples, de Milan, de Rome, etc.?
Alors, ce sentiment anti-européen, Christophe, il est aussi exacerbé par certains maires, hein. On ne parle pas forcément de la population des citoyens lambda, mais même par des maires, notamment ceux qui sont proches des partis souverainistes, la Ligue et Fratelli d'Italia, qui, juste pour vous donner un exemple qui est quand même très symbolique, ont décidé de retirer le drapeau européen de leur mairie, le drapeau européen qui siège à côté de votre drapeau national. Donc non, il est à la fois dans la population, mais il est aussi exacerbé par des maires proches des mouvements extrémistes et populistes. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, le sentiment anti-européen en Italie, et c'est là où, où l'Europe aussi a un rôle à jouer dans sa solidarité financière, c'est qu'à un moment, la coupe sera pleine, parce qu'on a parlé de la crise financière avant et du sauvetage de la Grèce, mais il ne faut pas l'oublier, l'Italie est constamment en proie à un manque objectif et visible de solidarité européenne dans la gestion et la prise en charge des migrants. Si vous voulez, c'est encore un épisode de plus pour la population italienne qui se sent lésée de ne pas voir cette solidarité européenne appliquée. Et donc, c'est aussi ça le risque pour les leaders politiques italiens et pour Giuseppe Conte, c'est qu'il doit à la fois ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'il ne peut pas non plus afficher des positions trop européennes, mais il doit quand même aussi rester dans le jeu et s'éloigner du mouvement 5 étoiles et de la Ligue. Donc, moi, je crois véritablement que les leaders européens ont véritablement un intérêt à écouter un peu plus leur allié italien s'ils ne veulent pas qu'un jour ce sentiment européen passe un échelon et un cran supplémentaire.
Est-ce qu'on peut dire que l'Europe a une énorme carte à jouer dans sa survie comme unité européenne, comme entité européenne ? Sur l'après-Covid-19, l'après-coronavirus, l'Europe sera jugée durement sur comment les autorités européennes gèrent cette après-crise. Il y a eu la gestion de la crise, qui sera débattue en tant que telle, mais la gestion de l'après-crise, de sortie de crise, elle est primordiale aujourd'hui à la survie européenne. Est-ce que j'ai raison quand je dis ça ?
Comme souvent, Christophe, vous avez raison.
Merci.
Non, mais il y a deux niveaux. Alors, je crois que pour la... je vais répondre, oui, il y a deux niveaux. Je crois que pour la gestion de crise, les dirigeants européens s'accordent à dire effectivement que l'Europe a mis du temps à réagir, mais que maintenant, elle est pleinement mobilisée pour gérer de la manière la plus efficace de la crise, même au niveau de ces institutions qui ne sont pas connues pour être les plus proactives et les plus dynamiques possibles. Juste encore une fois, deux exemples, hein, ça fait une semaine, on en a débattu vendredi dernier, que le président du Conseil européen, Charles Michel, et que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont publié cette feuille de route pour une sortie coordonnée, une exit stratégie de l'Union européenne post-crise Covid-19. Et puis, on l'a vu, hein, ce sommet européen où les 27 dirigeants de l'Union européenne ont demandé à la Commission européenne de préparer ce plan financier. Donc, les institutions, elles sont pleinement mobilisées. Mais le deuxième élément, Christophe, et c'est pour répondre un petit peu plus sur la symbolique et justement sur le rôle et la manière dont l'Europe sera vue à la sortie de cette crise. Et je vais reprendre, puisque c'est le thème de cette émission, cette question de la mutualisation des dettes, juste pour qu'on comprenne bien en fait ce que ça veut pouvoir dire aussi en termes de symbole pour l'Union européenne. Pour mutualiser des dettes, vous avez trois façons de faire. La première, c'est de les mutualiser complètement. Donc là, ça veut dire que c'est les pays riches qui vont aider les plus pauvres. Alors on l'a vu, c'est compliqué parce que l'Allemagne, parce que les Pays-Bas n'ont pas forcément envie encore de repayer pour les pays pauvres. C'est aussi l'histoire de la cigale et de la fourmi, hein. C'était aussi à l'Italie et à l'Espagne, selon ces pays-là, de mettre en place les mesures d'austérité pour ne pas être dans cette situation-là. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est d'avoir une austérité globale qui est imposée. Et ça, c'est compliqué aussi, parce que si vous imposez une austérité globale, vous avez des politiques économiques qui sont dures, vous avez un chômage qu'il est difficile de juguler. Donc, vous ne pouvez pas forcément avoir une période d'austérité, en tout cas, pas de manière prolongée. Et la troisième solution, et c'est là, Christophe, pour répondre à votre question, et c'est là où l'Europe sera vue justement comme étant capable de prendre les mesures de la chose. La troisième solution, en fait, c'est qu'une institution supranationale, en l'occurrence la Banque Centrale Européenne, rachète les dettes à tour de rôle des États et qu'elle possède, elle, les dettes souveraines des pays membres de la zone euro. Et c'est là aussi, Christophe, alors je ne suis pas un économiste qui pousse dans une autre situation, mais c'est là aussi où on est capable de voir si on a des institutions européennes qui sont capables de prendre le lead et de jouer ce rôle, justement, quand les difficultés s'amoncellent entre les pays européens, pour être capable d'organiser une sortie de crise et de prendre en charge temporairement, là on prend l'exemple des dettes, les dettes pour les pays qui sont le plus en souffrance actuellement. Et donc, je pense que l'Europe sera jugée, finir avec ce point-là, si elle est capable d'utiliser ces mécanismes et ces institutions financières pour aider les pays qui en ce moment le demandent de sortir la tête haute de la crise.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre, Christophe. Merci.